autour de la question.
Qu'est-ce que ça va changer?
Comment ça se passe ailleurs?
Pourquoi ça?
En quoi ça nous touche?
Antonio Fischetti.
Bonjour, ravi de vous retrouver avec Capoline Verlon-Raison à la réalisation. Aujourd'hui, avec Internet, il est de plus en plus difficile de faire la part des choses entre ce qui est fiable et ce qu'on appelle les fake news, les fausses informations. Il y a les thèses complotistes selon lesquelles on nous cacherait la vérité à propos des attentats du 11 septembre ou contre Charlie Hebdo. On trouve aussi d'autres théories qui prétendent que les vaccins seraient très dangereux ou bien que la Bible contiendrait des prophéties cachées. Comment garder l'esprit clair et critique? Et comment aider les adolescents qui sont particulièrement sensibles à ce genre de discours? L'une des premières armes consiste à mieux comprendre le fonctionnement de notre cerveau qui nous fait souvent commettre des erreurs de raisonnement autour de la question comment se protéger de la crédulité avec notre invité, le sociologue Gérald Bronner. Gérald Bronner, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, professeur à l'université Paris Diderot. Vous avez publié de nombreux ouvrages, notamment « La démocratie des crédules »,« L'empire des croyances » ou « La pensée extrême ». On peut dire que vous êtes spécialisé dans l'étude des idées fausses.
Oui, des idées fausses, des croyances en général, c'est vous dire si j'ai beaucoup de pain sur la planche en ce moment.
Alors votre dernière publication n'est pas un ouvrage universitaire, mais c'est une bande dessinée néanmoins très sérieuse, mais accessible à tout public et surtout à l'attention des adolescents. Donc cette bande dessinée s'intitule « Crédulité et rumeurs ». Elle est dessinée par Krasinski, donc le dessinateur, et vous êtes l'auteur du scénario. C'est donc un scénario où deux jeunes adolescents sont mis en scène. C'est la première fois que vous vous adressez particulièrement aux adolescents.
Oui, à titre personnel, tout à fait. Cette collection de BD, cette BD, elle s'insère plutôt dans une collection générale, qui est une collection en quelque sorte encyclopédique, un peu comme les Que sais-je, vous savez, mais là, sauf que c'est en BD. Et on m'a proposé il y a quelques mois, enfin il y a plus d'un an de cela, de mouiller la chemise. Et j'étais tenté effectivement avec cette idée qu'il n'existait pas encore finalement de manuel d'hygiène mentale en quelque sorte, ou de proposition d'aide pour faire sa déclaration d'indépendance mentale pour les plus jeunes. Et c'est une question particulièrement préoccupante, puisqu'en effet, un certain nombre d'enquêtes montrent que ce sont eux qui majoritairement s'informent sur Internet, plus que les autres classes d'âge, et qui malheureusement aussi ont tendance à y croire plus que les autres classes d'âge, qui peuvent y lire notamment sur les réseaux sociaux.
Oui, alors vous abordez de nombreux sujets, alors aussi bien les attentats du 11 septembre, les vaccins, tout un tas de fake news, justement, mais l'originalité de votre démarche, ce n'est pas de contredire tous ces arguments un par un, ce serait trop long, mais d'apporter des outils intellectuels et de s'intéresser justement à la façon dont notre cerveau fonctionne, puisque c'est notre cerveau qui nous trompe. Tout le monde, en fait, tout un chacun, nous pouvons être victimes de ces erreurs de raisonnement.
C'est fondamental à mon avis, parce que précisément on s'interroge beaucoup à juste titre sur ces fake news, appelons-les comme ça, puisque c'est un terme qui est devenu maintenant totalement usité. Ces rumeurs, ces histoires fausses ou douteuses, et tout le monde s'interroge, même au niveau mondial ou au niveau européen, puisqu'il y a beaucoup de programmes de recherche qui sont engagés, beaucoup d'argent public sur cette question de comment finalement réguler le marché de l'information. Et on sait d'ailleurs qu'à la présidence, on pense à une loi sur les fake news, dont je ne sais pas encore exactement ce qu'elle sera, mais qui d'une certaine façon peut être inquiétante, parce qu'elle peut avoir une dimension liberticide. Le fait de vouloir retirer des idées du marché de l'information, c'est pas forcément, ça colle pas forcément avec l'esprit démocratique.
Mais oui, et d'ailleurs, il y a des fake news qui après s'avèrent...
Absolument.
Donc il faut à un moment donné qui ensuite s'avère vrai.
Absolument. Je conçois que ça soit une préoccupation. C'est normal que ça soit une préoccupation politique que de vouloir réguler un marché qui est devenu un peu fou. Mais en même temps, il faut nous autres, les commentateurs, devons être très attentifs à ce que ces dispositions ne deviennent pas liberticides. Et c'est pourquoi, effectivement, à mon avis, la mesure... La moins douteuse et la moins liberticide qu'on puisse concevoir, c'est d'aider les esprits, et en particulier les jeunes esprits en formation, à faire leur déclaration d'indépendance mentale, c'est-à-dire à penser... Oui. en profondeur les processus qui peuvent les conduire à commettre des erreurs, à croire à des choses fausses, sans pour autant être bêtes.
Alors vous faites par exemple, voilà, c'est ça, hein, vous dites, il ne faut pas confondre crédulité et bêtise, hein, mais la ruse de la crédulité, c'est de se faire passer pour de l'intelligence. Alors, nous allons parler d'exemples très concrets, et justement, hein, on a vu les théories du complot exploser après l'attentat du 11 septembre 2001. Écoutons le journaliste Thierry Messant, invité dans l'émission télévisée de Thierry Ardisson, où il explique pourquoi l'attentat du 11 septembre serait, selon lui, un complot américain.
L'avion qui s'est soi-disant écrasé sur le Pentagone a provoqué très très peu de dégâts finalement.
Alors, quand on regarde les photos qui sont disponibles sur cet attentat, qu'on se fonde d'abord sur les photos fournies par le département de la Défense et sur les photos diffusées par la société de presse juste après l'attentat, on peut constater qu'il y a une impossibilité matérielle pour que la version officielle fonctionne. C'est-à-dire, dans la version officielle, on nous raconte que un Boeing 757, c'est un engin énorme, arrive devant le Pentagone, descend juste devant le bâtiment sur une pelouse qui se trouve à l'avant, frappe cette pelouse, rebondit, touche la façade, s'engouffre dans la façade au niveau du rez-de-chaussée du premier étage, est totalement happé à l'intérieur du bâtiment et brûle là à l'intérieur. Ça, c'est ce qu'on nous raconte. Maintenant, n'importe qui peut regarder la photo qui est sur la couverture du livre, qui est la photo d'Associated Press, qui est la première photo qu'on ait prise après l'attentat. Donc, sur la partie gauche de la photo, vous avez de la fumée. Au bas de la fumée, vous avez caché par cette fumée un trou qui est censé être celui qui a absorbé un Boeing 757. Donc, c'est pas bien difficile de comprendre que ça n'est pas possible.
Autour de la question, comment se protéger de la crédulité, avec le sociologue Gérald Bronner, donc je rappelle la dernière publication, une bande dessinée Crédulité et Rumeur, j'ai pas dit le nom de l'éditeur, hein, aux éditions du Lombard, bande dessinée qui va sortir très prochainement, la semaine du 4 mai précisément. Donc Gérald Bronner, quand vous écoutez, quand vous entendez Thierry Messant, ça vous fait penser à quoi? Ça vous irrite?
Ça me rappelle des souvenirs. C'est un moment terrible de l'histoire de la télévision française, parce que là, on invite un conspirationniste sans contradicteur. Je crois d'ailleurs que Ardisson a fait son mea culpa après, hein, sur ce point. Donc c'est une erreur terrible. Pourquoi c'est une erreur terrible? Parce que c'est ça le problème, c'est que les propositions conspirationnistes, même les plus délirantes, peuvent être convaincantes. Quand vous écoutez Messant à l'époque, moi je l'avais écouté, et à ce moment-là je n'avais aucune idée de ces questions, et je l'avais trouvé relativement convaincant, comme un certain nombre, je suppose, d'auditeurs. Parce qu'il n'y a pas de contradiction. En effet, pourquoi c'est convaincant? Prenons un seul de ces arguments. C'est d'abord parce que ça va dans le sens de notre intuition. C'est vrai qu'on n'imagine pas un gros Boeing disparaître et s'infiltrer intégralement dans une partie du Pentagone, parce que sa thèse, c'était pas sur les Twin Towers, hein, c'était sur le Pentagone.
Et donc c'est possible, alors, quand même, de s'infiltrer dans un petit orifice comme ça.
Mais la suite l'a totalement démontré, puisque d'ailleurs, il y a un livre qui s'appelle, non pas lui, son livre, c'était L'Infroyable Imposture, et il y a un livre de journalistes qui ont répondu par L'Infroyable Imposteur, il parlait de Thierry Messant, parce qu'effectivement, tous ces arguments sont complètement bidons, il faut bien le repréciser. Et d'ailleurs, certains sont malhonnêtes, hein, puisqu'il y a des cadrages de photos qui excluent des parties de l'avion pour pas qu'on les voit, pour faire croire qu'il y avait aucune une partie de l'avion sur la pelouse, alors que c'est totalement faux, etc. Mais ça, je pense que même les conspirationnistes aujourd'hui ne
donc
croient plus tellement
à
la thèse de
Messant. Il y a quand même des conspirationnistes de bonne foi et d'autres de mauvaise foi. Donc là, visiblement, Thierry Messant est lui-même de mauvaise foi. Mais il y a aussi, vous vous adressez à des gens qui, de bonne foi, seraient convaincus tout simplement parce que...
Je ne m'adresse pas aux épiciers du conspirationnisme, ceux qui en vivent, et il y en a, bien entendu. Et eux, ils sont d'une parfaite mauvaise foi, c'est leur business, je trouve ça pas très honnête, mais ça les regarde. Ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est mes concitoyens qui sont pas plus idiots que moi ou vous, et qui peuvent être séduits, comme j'aurais pu l'être dans d'autres circonstances, par des arguments qui sont faux en fait, mais qui paraissent vrais. Et pour se méfier de ces arguments, eh bien, il faut encore apprivoiser, en quelque sorte, la façon dont nos intuitions fonctionnent.
Oui, alors justement, vous faites dans votre bande dessinée, hein, le parallèle avec les illusions d'optique. Ça, c'est très intéressant, justement, puisque cela illustre la façon dont notre cerveau peut nous tromper et nous amener à ce qu'on appelle des biais, c'est-à-dire des erreurs de raisonnement.
Oui, parce qu'on a notre cerveau, c'est vraiment un outil fabuleux et on a tendance à lui faire trop confiance d'une certaine façon. Parce que c'est vrai qu'il nous permet de vivre, hein, de survivre. C'est ce qui fait la caractéristique, c'est surtout notre cortex préfrontal.
Ouais, mais quel rapport entre, disons, les théories du complot et puis les illusions d'optique ?
Dans un premier temps, ça peut être d'abord, c'est pour ça qu'on l'utilise dans le livre, c'est que c'est une option pédagogique. C'est-à-dire il s'agit de faire comprendre au lecteur, à n'importe qui. Et c'est comme ça que j'ai fait, vous savez, quand je suis intervenu dans le centre de Pontourny, dit le centre, vous savez, avec les radicalisés qui étaient en Touraine. Mais il s'agissait de disons effectivement là aussi avec ces jeunes gens qui avaient des profils de radicalisation, eh bien de déguiser leur esprit critique, et j'avais commencé de la même façon. C'est-à-dire je leur avais montré des illusions d'optique, d'abord pour les convaincre que n'importe quel cerveau, même très bien constitué, peut se tromper systématiquement. C'est ça la vertu pédagogique de l'illusion d'optique, c'est d'abord de convaincre le sujet qu'en effet, contrairement à ce qu'il pourrait croire, il peut systématiquement se tromper.
Oui, alors justement, parmi les innombrables façons de se tromper, hein, vous dites des biais de raisonnement, il y en a plus de 150, hein, ce qu'on appelle des biais cognitifs, on ne va pas tous les énumérer au cours de cette émission, mais quelques-uns quand même. Hein. Alors il y en a un très important qu'on appelle le biais de confirmation, c'est-à-dire qui consiste à nous pousser à aller chercher ce qu'on croit déjà savoir. Est-ce que vous pouvez en quelques mots nous expliquer comment ça fonctionne?
Ça c'est peut-être le plus vieux biais qui a été identifié, parce que Bacon déjà, le philosophe, avait identifié ce biais. C'est où la tendance qu'on a tous, encore une fois, y compris moi qui vous parle, à aller plutôt chercher des informations qui vont dans le sens de mes croyances préalable, plutôt que des informations qui vont les mettre en danger.
Donc sur Internet, on va chercher en fait ce qui nous rassure. Et vous dites, entre 2005 et 2010, hein, l'information disponible à la surface de la Terre a été multipliée par 8. Ouais. Et ce qui se passe également, c'est qu'il y a des algorithmes, hein, sur Internet qui font que si on va chercher une information conspirationniste, ensuite on est inconsciemment, involontairement amené à retomber sur ce genre de site.
Voilà, il y a deux processus. Il y a d'abord notre cerveau qui nous conduit à trouver plus attractif des informations qui vont dans le sens de ce qu'on croit. Et effectivement, plus il y a d'informations disponibles, et vous avez raison, on en a produit 8 fois plus en 2010 qu'en 2005, donc il y a une progression, une explosion géométrique en quelque sorte de la disponibilité de cette information, plus cette disponibilité elle est grande, plus j'aurai loisir d'aller trouver au moins une information qui va dans le sens de ce que je crois. Et donc ça va augmenter ce biais de confirmation. Et le deuxième élément, c'est qu'en plus, l'outil technologique ainsi qu'il est constitué, avec les algorithmes qui choisissent pour nous un certain nombre d'informations, c'est-à-dire qui nous les mettent en avant, certaines plutôt que d'autres, vont dans le sens de nos recherches préalables. Ainsi, par exemple, si vous achetez un livre sur Amazon ou si vous êtes sur Netflix, que vous regardez tel ou tel type de série télé, vous voyez bien qu'on vous propose un certain nombre de choses qui vont dans le sens de votre goût. C'est pas pour vous embêter,
et vous dites, c'est
plutôt pour vous arranger.
Ouais, et en plus, vous dites qu'il y a 3 fois plus de traces laissées par les conspirationnistes que par les rationalistes, hein, ce qui pourrait faire croire que, disons, il y a 3 fois plus de conspirationnistes, alors qu'en fait, non, ils sont 3 fois plus actifs, en fait.
C'est ça le problème, c'est qu'en plus, le marché de l'information, il est évidemment impacté par l'activité des acteurs. Hein, c'est un marché dérégulé, en réalité, alors qu'il y a bien des vertus. Cette disponibilité de l'information, elle est merveilleuse, hein, pour vous qui êtes journaliste, moi qui suis chercheur, c'est quelque chose qu'on utilise évidemment tous les jours, mais le problème, c'est qu'est-ce qui va être mis en avant? Et ce qui va être mis en avant est lié donc à mes choix personnels, mais aussi à l'activité des autres, ceux qui offrent de l'information. Or, sur ce marché dérégulé, c'est un rapport de force qui s'instaure. Et ce rapport de force, il est souvent gagné par ceux qui sont plus motivés à faire valoir leur point de vue. Et ceux-là, sont souvent les croyants et les plus radicaux.
Comment se protéger de la crédulité avec le sociologue Gérald Bronner autour de la question. Donc, petite pause musicale, écoutons cette chanson de Neil Young, Let's Roll, Aller de l'avant, une chanson qu'il a écrite donc après le 11 septembre.
I love you.
Comment se protéger de la crédulité ? Gérald Bronner, nous parlions de l'attentat du 11 septembre à New York, hein, mais en France, nous avons eu aussi l'attentat contre Charlie Hebdo, et là aussi, des thèses conspirationnistes ont émergé assez tôt. Écoutons cet extrait de l'une des très nombreuses vidéos que l'on peut trouver sur Internet. La personne, ici, avec une voix robotisée, énumère les arguments contre ce qu'elle appelle la version officielle de l'attentat.
Numéro 1, l'attentat aurait commencé à 11h50. En 3 minutes, le journal 20 minutes est déjà au courant. Puis en moins de 10 minutes après l'annonce sur 20 minutes, la chaîne télé est déjà sur place. Ils ont eu le temps de grimper par les toits pour tenter de filmer. Alors que les équipes d'intervention mettent 30 à 45 minutes à rejoindre le lieu du massacre. Étaient-ils déjà sur les lieux en sachant ce qui allait se passer ? Numéro 2. Pourquoi ces gens qui étaient dans le bâtiment Charlie Hebdo sont partis se réfugier sur les toits munis de gilets pare-balles ? Étaient-ils au courant aussi de l'attaque ? Portaient-ils des gilets pour éviter toute bavure lors de cette attaque ? Numéro 3. Lors de l'exécution du policier, à bout portant celui-ci appelle son assassin-chef. Pourquoi aucune trace de sang est aperçue après le tir à bout portant ? Pourquoi une traînée de poussière apparaît comme si le coup avait été tiré au sol ? Numéro 4. Une carte d'identité aurait été retrouvée dans la Citroën C3 noire. Comment des terroristes ? N'oublie pas une basket avant de partir, mais oublie une pièce d'identité.
Donc Gérald Bronner, vous avez en tant que sociologue particulièrement étudié hein, ces idées fausses, ces rumeurs hein, sur l'attentat de Charlie Hebdo. Mmh. Et vous en parlez dans cette bande dessinée dont on appelle le titre hein, « Crédulité et rumeurs ».
Oui, bah c'est une des étapes supplémentaires hein, qui a fait prendre conscience à l'époque, notamment au pouvoir public, que la question de la théorie du complot était vraiment problématique vis-à-vis des jeunes, parce qu'on se rappelle quand même que non seulement un certain nombre de jeunes, ils n'étaient pas si nombreux, mais ils n'étaient pas si rares non plus, ont refusé cette minute de silence pour Charlie Hebdo, mais en plus s'adosser à des théories de type conspirationniste dont on a vu quelques-uns des éléments. Ce qui est tout à fait frappant dans cette affaire, c'est que contrairement au 11 septembre, qui est quand même la première grande théorie du complot qui est née sur Internet, c'est ça qui est intéressant avec le 11 septembre.
Et par... Ça existait avant, mais ce n'était pas aussi répandu.
Sont très anciennes. Il y a des vieilles femmes qui ont été
Internet
brûlées
a démultiplié,
au nom des théories du complot. Oui, tout à fait. Ça a démultiplié. Mais au moment du 11 septembre, il faut attendre à peu près 26 jours pour voir apparaître une première théorie du complot. Alors que pour Charlie Hebdo, c'est une heure après, à peine, après l'attentat.
Donc le conspirationnisme se développe de plus en plus rapidement
absolument.
Au fil des ans.
Il y a une prodigieuse accélération, si vous voulez, de l'imaginaire conspirationniste sous deux modes. D'abord, dans son apparition, il apparaît beaucoup plus vite, et puis sur le nombre d'arguments. C'est-à-dire que le premier jour, il y avait déjà plus de 20 arguments disponibles en faveur de la théorie du complot. 4 jours après ces attentats, plus de 100 arguments disponibles en faveur de la théorie du complot. Il y en a qui sont très loufoques, mais comme par exemple l'idée que le parcours de soutien à Charlie Hebdo faisait la carte d'Israël à l'envers, par exemple. Vous voyez, ce sont des arguments qui ne peuvent pas convaincre beaucoup. Puis il y en a d'autres qui sont plus troublants, comme celle de la carte d'identité, etc., qui nécessitent du temps pour faire ce qu'on appelle du debunking, c'est-à-dire de la démystification, ou les arguments qu'on a entendus qui peuvent troubler un esprit normalement constitué.
Voilà, alors tous ces arguments, on pourrait les démonter tous un par un.
Ils ont tous été démontés.
Ils ont tous été démontés.
Ils n'ont aucune valeur, mais ils peuvent, l'accumulation en 1000 feuilles de ces arguments peuvent troubler notamment des esprits jeunes, puisque c'est de dont on parle beaucoup, et on comprend que ça puisse être convaincant.
Voilà, alors vous, ce que vous apportez, en plus, comme on l'a dit, hein, de démonter tous ces arguments un par un, mais ce qui serait trop long. Hein. Ce sont des outils intellectuels ouais. pour s'en prémunir, justement, ce que vous appelez une sorte de manuel d'hygiène ou de sauvegarde mentale. Hein.
Tout à fait. C'est comment le sous-titre d'ailleurs de la BD, c'est aussi comment lutter et s'en prémunir des fake news. Parce que bon, c'est la vieille image, mais cette fois, elle est très utile. Ça sert à rien de donner du poisson, il faut apprendre à pêcher. En fait, c'est un peu la philosophie de cette bande dessinée. On va pas défaire chacun des arguments des théories du complot. Il y en apparaît tous les jours, des théories du complot avec des dizaines d'arguments. Donc en fait, ce qu'on peut faire de mieux, c'est muscler le système immunitaire intellectuel des jeunes gens, leur apprendre à ne pas être dupes, leur apprendre la vraie pensée critique. Parce que le problème, c'est que les conspirationnistes se réclament aussi de la pensée critique. Ils disent, nous aussi, on doute de tout. Mais douter de tout sans méthode, ça n'est pas douter, n'est-ce pas ? C'est être dupe de soi-même.
Alors
donc
vous
il faut
que...
douter de soi-même avant tout, en fait.
Vous dites que justement, le succès des théories conspirationnistes tient à la conjonction de la dérégulation du marché de l'information et du fonctionnement archaïque de notre cerveau.
C'est un peu paradoxal, c'est vrai. C'est comme si, dans le fond, l'homme préhistorique revenait sur le devant de la scène contemporaine. Et oui, parce qu'il y a des vieilles dispositions qui datent de très longtemps dans notre histoire évolutionnaire, comme par exemple la capacité de stocker de la graisse. Vous consommez du sucre, n'est-ce pas, et vous pouvez stocker de la graisse. C'est très utile, parce que la graisse est une réserve d'énergie disponible, potentiellement. C'est très utile en un temps où le sucre est très rare. Mais en un temps où il est produit de façon industrielle, ça fait des sociétés qui, statistiquement, vont vers l'obésité. Pour l'information, c'est un peu la même chose. C'est pour ça qu'on parle d'infobésité, d'ailleurs. Ça peut être très utile, par exemple, d'être très attentif à des risques faibles.
Infobésité, c'est-à-dire qu'on est finalement victime de ce surplus d'informations qu'on ne sait pas forcément
On ne sait pas les digérer.
Notre cerveau n'est pas habitué à ça.
On les stocke mal. Et d'ailleurs, une enquête récente vient de montrer qu'on mémorisait mieux les fausses informations, les fake news, que les vraies informations.
Et pourquoi
donc ? Ce qui aggrave le problème. Alors, la raison est probablement que les fake news sont souvent plus spectaculaires. Elles contredisent nos attentes intuitives et que des anthropologues cognitifs ont montré dans pas mal de travaux que vous avez une proposition culturelle, un produit culturel a plus de chances de se diffuser et d'être mémorisé s'il est composé d'un tiers d'éléments contre-intuitifs pour deux tiers d'éléments intuitifs. Donc peut-être que les fake news...
C'est plus attractif en fait finalement. Alors un autre biais cognitif, c'est-à-dire une erreur de raisonnement de notre cerveau, aussi un biais très important, c'est en fait celui qui consiste à se dire à qui profite le crime et puis d'une certaine façon imaginer que forcément c'est celui qui en profite qui est celui qui l'a commis. Absolument. À ce moment-là, vous dites, on pourrait aussi bien dire que les pompistes sont responsables des embouteillages, et les laboratoires pharmaceutiques seraient responsables de toutes les maladies, et puis même d'ailleurs, pour ce qui est des attentats, on pourrait dire que les journalistes ou les marchands de journaux sont responsables des attentats, puisque finalement ils en sont bénéficiaires.
On l'a dit à propos de Charlie Hebdo notamment, puisque on a remarqué que Charlie Hebdo s'était particulièrement bien vendu après les attentats, et donc il y avait un intérêt derrière cela, on l'a dit. Donc vous voyez, en fait, on n'invente rien.
On n'en sort pas finalement.
Les conspirationnistes nous précèdent toujours.
Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut donc des outils de défense intellectuelle autour de la question comment se protéger de la crédulité. Petite pause musicale avec Le Complot d'Ibrahim Malouf et Oxmo Puccino.
Elle ne le haïssait pas, mais le détestait seulement. La reine y songeait dans sa vie d'isolement. Le lapin et elle étaient amis d'enfance. Il était son doudou. Dans le noir, il prenait sa défense. Les années sont des comètes. Ce n'était pas contre elle. Beaucoup de princesses oublient qu'elles finiront reines. Devenues adultes, leurs chemins se séparèrent. Par quelques manigances, elle le garda un peu près d'elle. Mais désormais, l'affaire est grave. Un complot se trame, atteindre là-haut, c'est aussi toucher le drame. Le lapin voulait couper l'heure, comment se fier quand tout est l'heure? La reine a bien décidé, couper l'heure, couper l'heure, couper l'heure, la tête, couper l'heure, la tête. Donc en séjour au pays, les carreaux sont cuits. D'abord on condamne, puis on juge ensuite. Son Altesse est déterminée, minée, les raisons de ses craintes bien nulées. Pour des roses peintes, une part de tarte folée, l'arrogance d'une blonde auréolée, olé. La reine est certaine qu'on veut la harponner, pour s'éviter trop sujet à pardonner. Elle est prête à décapiter tout le monde sans preuve, jusqu'à pendre le bourreau quitte à finir seul. Le lapin voulait couper l'heure, comment se fier quand tout est l'heure? La reine a bien décidé, couper l'heure, couper l'heure, couper l'heure, la tête. Des fois la bonté cause des abus, de la dureté naissent les relations ardues. Ce qu'en pense le peuple fatalement, la reine elle s'en moque royalement. Pour être aimé faut être aimable, porter la couronne exige un cœur pliable. Chacun sa réponse, tout le monde veut son carrosse. Lunettes de soleil, château pour les gosses. Les sujets haïssent les sommets de l'empire, pour une cuisse il ferait bien pire. Le lapin voulait couper l'heure, comment se fier quand tout est l'heure? La reine a bien décidé, coupez l'heure, coupez l'heure, coupez l'heure, la tête.
Nous sommes avec le sociologue Gérald Bronner qui nous parle des rumeurs et de la crédulité, surtout des moyens de s'en protéger. Alors Gérald Bronner, dans votre bande dessinée à l'attention des adolescents, il y a un thème très important, c'est celui des vaccins. Écoutons justement cet extrait d'actualité télévisée.
Enfin, une décision de justice définitive a débouté un laboratoire au profit d'une personne atteinte de sclérose en plaques. Maladie développée quelques mois après avoir reçu le vaccin contre l'hépatite B.
C'est la première décision définitive qui condamne le laboratoire pour défectuosité de son produit, donc du vaccin contre l'hépatite B.
Mais Armelle Jean-Père voit plus loin. Elle aimerait que cette mauvaise expérience avec le vaccin contre l'hépatite B puisse servir de leçon aux autorités sanitaires. Et en ce moment, la grande campagne autour du futur vaccin contre la grippe A lui rappelle de mauvais souvenirs.
Les conséquences de cette campagne médiatique massive de 94-98 et en tirer les leçons de ce qu'il ne faut pas faire en matière de santé publique dans une campagne de vaccination massive, c'est-à-dire on ne peut pas vacciner globalement comme un troupeau toute la population, c'est pas possible.
Gérald Brunner, d'ailleurs, votre bande dessinée commence sur cette case. Hein. C'est un jeune adolescent qui est à table avec ses parents et puis qui apparemment a une discussion passionnée avec eux et il lui dit bah, « Vous ne savez pas que ce vaccin donne la sclérose en plaques, vous êtes malade ou quoi ?» Et puis ensuite, il leur dit « Vous êtes de bons moutons. » Donc alors vous dites qu'il n'y a aucun lien entre les vaccins et contre l'hépatite B et la sclérose en plaques, hein, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. Alors, on ne peut pas évacuer ça d'un revers de main. Dites-nous en plus.
Ah non, mais ce n'est pas moi qui le dis, c'est tout simplement l'expertise scientifique qui le dit. Ça, c'est une préoccupation très, très ancienne maintenant, puisqu'il y a eu des suspicions en effet. Il y a donc des études épidémiologiques très sérieuses qui montrent qu'il n'y a absolument aucun lien entre le vaccin hépatitaire et la sclérose en plaques, n'en déplaise à des jugements de loi.
Et pourtant, sur Internet, on trouve énormément de sites d'informations, enfin disons, qui relaient ce mensonge.
Oui, cette erreur en tout cas, puisque c'est pour que ça soit un mensonge, il faudrait qu'il soit volontairement diffusé en tant que faux. Je pense que la plupart de ceux qui diffusent cela pensent que c'est vrai. Et effectivement, c'est d'ailleurs un sujet d'inquiétude, en particulier en France. Vous savez qu'il y avait à peu près 9% de nos concitoyens qui se méfiaient des vaccins au début des années 2000. Et ils sont aujourd'hui 40%. Ce qui fait d'ailleurs de la France le pays numéro 1 de la méfiance envers les vaccins. Et comme je sais que vous avez aussi beaucoup d'auditeurs en Afrique notamment, je pense que c'est un sujet qui est particulièrement sensible, n'est-ce pas, car les populations africaines ont besoin de cette ingénierie vaccinale. Il ne faudrait surtout pas que des suspicions inconséquentes se développent dans des territoires où il est aussi nécessaire. C'est probablement la plus grande avancée, n'est-ce pas, sanitaire du XXe siècle, avec l'hygiène, on va dire, que le vaccin. Donc ce serait un suicide collectif, n'est-ce pas, que de laisser se répandre inconséquemment des croyances qui sont là dangereuses. Dans le sens, certaines sont distrayantes, hein, comme la Terre plate, etc. On peut en rire, mais là, il ne s'agit plus de rire du tout, car les consensus scientifiques sur ces questions sont extrêmement fermes, n'est-ce pas ? Et d'ailleurs, en France, c'est la suspicion par rapport à la sclérose en plaques. Dans d'autres pays, on a suspecté tel autre vaccin, par exemple, de développer l'autisme, n'est-ce pas ? Il y a même un cas très célèbre en Angleterre, avec un article publié dans The Lancet, qui est quand même une revue médicale extrêmement sérieuse, qui a retiré cet article, oui, et qui était quand même un faux.
Qui affirmait qu'il y avait un lien entre les vaccins et l'autisme, et donc ce lien n'a pas du tout été confirmé.
Et c'est pire que ça. Non seulement ce lien n'a pas été confirmé, mais en fait, il s'agissait d'un trucage. Donc
un vrai trucage,
une totale malhonnêteté de la part de l'auteur qui a été radié d'ailleurs de l'ordre des médecins, si je me souviens bien. Donc là aussi, la question est de savoir pourquoi est-ce que ces propositions intellectuelles, que sont les propositions anti-vaccination, ont autant de succès aujourd'hui. Et une des façons d'y résister, c'est justement de comprendre les raisons intellectuelles qui font que ces théories se diffusent.
Alors pourquoi justement ? Alors il y a quand même quelque chose d'important, c'est le rapport, disons, risque-bénéfice. C'est-à-dire les vaccins, donc précisons-le, rappelons-le, sauveront encore des millions, voire des dizaines de millions de vies. Et vous dites, le baratin des anti-vaccins marche d'autant mieux que justement, intuitivement, nous ne mettons pas de la même façon les risques éventuels, même s'ils existent et qu'ils sont très minoritaires, et les bénéfices que les vaccins rapportent.
Hein. Mais oui, et c'est là que le cerveau entre en jeu, c'est qu'effectivement, ces risques ne sont pas nuls. On peut faire une réaction allergique, etc., ou dans le cas de certains vaccins à Guillain-Barré, bien sûr, ça existe. D'ailleurs, ces réactions peuvent être dramatiques. Personne ne le nie, certainement pas le monde médical. Seulement, c'est, je dirais, incommensurablement plus faible que les bénéfices engendrés. Seulement, le cerveau a tendance, naturellement, à multiplier les très faibles probabilités par 10 ou 15.
Oui, on a tendance, vous dites, hein, à surestimer intuitivement le risque. C'est-à-dire, si on a un tout petit risque, notre cerveau nous le fait voir comme une montagne,
Et ça, c'était très utile ville en un temps très lointain, par exemple, où nous vivions dans un monde hostile, où le moindre bruissement dans un buisson pouvait être celui d'un prédateur. Donc ceux qui surestimaient les risques ont mieux survécu que les autres, et de sorte que cette disposition mentale est devenue normale dans toute l'humanité. C'est comme pour le sucre, sauf qu'en un temps où le marché ne cesse d'exhiber devant nous des propositions intellectuelles qui aiguisent notre sens du risque, eh bien ça fait que ces propositions se diffusent de façon virale. Une autre question sur le vaccin, parce qu'il y a beaucoup de biais cognitifs qui sont impliqués, c'est par exemple effectivement la surestimation des coûts et des bénéfices. On a tendance à surestimer largement les coûts par rapport aux bénéfices. Songez que psychologiquement, pour compenser 1 euro de coût, il faut à peu près 2,5 euros de bénéfices.
Oui, le risque, pour parler concrètement, ce serait le risque de faire un choc allergique qui est minime, et puis le bénéfice, c'est bien d'éviter une maladie
comme la rougeole ou ce genre de choses. Effectivement, on se met facilement à la place des parents quand vous avez un doute, parce qu'on n'est pas tous spécialistes de ces questions, et moi je ne le suis pas, par exemple, je ne fais que lire la littérature scientifique sur ce point, eh bien, on ne se pardonnerait pas d'avoir fait vacciner son enfant que ça se passe mal. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les coûts de l'action. C'est-à-dire qu'on focalise notre esprit sur les coûts de l'action. Je ne me pardonnerais pas si je faisais vacciner mon enfant que ça se passait mal, mais par contre j'ai aucun problème à me le pardonner si je le fais pas vacciner qu'il m'arrive
alors que le risque tard, voilà. Serait le même, mais psychologiquement
il est en fait beaucoup plus grand.
Psychologiquement on les aborde pas de la même façon. Et vous dites aussi, donc nous avons tendance à multiplier intuitivement par 10 ou par 15 les très faibles probabilités.
C'est ainsi que dans tous les débats publics autour des questions de risque, pas seulement la question des vaccins, vous voyez que généralement la plupart des arguments qui sont retenus par la plupart d'entre nous, que ce soit sur les OGM ou sur des questions très sensibles, dont je ne tranche pas ici dans l'émission, mais les questions qui méritent qu'on se pose rationnellement des questions, eh bien, vous voyez que les arguments qui sont les plus saillants sont des arguments qui mettent en avant les coûts potentiels d'une technologie. Voilà. Et on oublie souvent les bénéfices qu'elle peut apporter, et c'est quand même le cas du vaccin, dont je répète que c'est probablement le plus grand acquis de la médecine.
Il faut donc se faire vacciner, et dans ce cas, effectivement, les rumeurs et les théories conspirationnistes sont très dangereuses, et donc, voire criminelles. Tout à fait criminel. Alors, il y a d'autres domaines où les rumeurs, les théories du complot sont un petit peu plus légères. Par exemple, vous dites, il y a des gens qui prétendent que dans la Bible, on peut décoder des prophéties. Écoutons justement cet extrait de votre bande dessinée mise en son par Apolline Verlon-Raison.
Je vais te raconter encore une histoire qui finira de te faire comprendre qu'une coïncidence extraordinaire n'a de sens que rapportée à la taille de l'échantillon duquel elle est issue. Il y a quelques années, il y a un type qui a publié un livre qui est devenu un best-seller. Il prétendait qu'il y avait dans la Bible toutes sortes de secrets cachés. Par exemple, si on lisait une lettre sur trois, ça faisait apparaître des mots.
Une lettre sur trois, et ça voulait dire quelque chose ?
La plupart du temps, non. Mais parfois, par hasard, oui. Par exemple, si je prends ton prénom. A-I-E, ça fait aïe. Ça veut dire quelque chose. Bref, de temps en temps, ça donnait de drôles de messages. L'arrivée d'Hitler au pouvoir, l'assassinat du président Kennedy. Et par exemple, cherchant quelque chose sur le 11 septembre, il a réussi, grâce à son ordinateur, à trouver les mots jumelles, tour, avion. Il a causé la chute, et deux fois.
Wow. Oui, on peut trouver ce qu'on veut dans la Bible. Il y a des chercheurs qui ont analysé le texte de la Bible et qui ont trouvé « Dieu est détestable » ou bien « haïssez Jésus ».
Absolument. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que si on utilise par exemple des techniques de lecture en lisant tous les deux lettres ou les trois lettres ou les quatre lettres, en imaginant qu'il y a un code secret de la Bible, on va finir par trouver effectivement des messages très troublants. Mais on oubliera que l'immense majorité des mots qu'on va trouver comme ça n'auront absolument aucun sens.
Voilà, c'est ce qu'on appelle la taille de l'échantillon, le biais de la taille de l'échantillon. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on trouve un mot qui a du sens qu'il faut oublier que les 1000 autres, ou les 10 000, ou les 100 000 autres mots n'ont pas de sens.
C'est une erreur extrêmement répandue et à laquelle il faut être très attentif, parce que c'est facile de s'en défaire par contre. Il y a des biais cognitifs, c'est difficile de s'en défaire, ça c'est assez facile de s'en défaire. Songez par exemple, pour prendre un autre exemple, que les astrologues, chaque année, certains écrivent des livres en produisant des centaines de prédictions sur l'année suivante. Et puis de temps en temps, certaines tombent juste. Et qu'est-ce qu'ils font? Évidemment, ils vont dire « j'avais prédit cela ». Mais ils oublient de nous rappeler, n'est-ce pas, qu'ils ont fait des des centaines de prédictions fausses. Et c'est ce que Voltaire avait bien compris en disant « Les astrologues ne sauraient avoir le privilège de se tromper toujours ». Pas oui. Même les astrologues ne se trompent pas toujours. Alors quand vous effacez la taille de l'échantillon, bien évidemment, vous donnez l'impression que vos prédictions sont extraordinaires. En d'autres termes, lorsqu'on considère que quelque chose est extraordinaire ou que c'est une coïncidence invraisemblable, eh bien, il faut toujours rapporter ce fait à la taille de l'échantillon duquel il est issu pour voir si vraiment c'est invraisemblable. Si vous avez une chance sur 10 000 de faire quelque chose par hasard, par exemple tirer une fléchette très très loin et de tomber droit sur la cible, mais que vous essayez 10 000 fois, il est normal de réussir à peu près une fois. Seulement, si vous cachez les 9 999 fois où vous avez essayé, ben on va penser que vous êtes un génie des fléchettes, tout simplement. Et ben, c'est ce que font les gens, parfois malhonnêtes, en cachant la taille de l'échantillon, ou parfois des gens, sans le savoir, comme l'auteur de ce livre, il y croyait vraiment.
Oui.
Et l'histoire, d'ailleurs, est assez drôle. Il y croyait tellement qu'il a mis au défi les mathématiciens qui se moquaient de lui de trouver le même genre de message dans Moby Dick.
Oui.
Parce qu'on me dit que c'est pas un livre sacré, ils l'ont fait et ils ont trouvé exactement des messages prophétiques de la même façon. Et c'est bien normal puisque
oui,
c'est le hasard.
Des révélations de 9 assassinats de premier ministre et aussi la mort de l'éditeur.
Alors là, il est évidemment l'auteur du code secret de la Bible. Et il a fait un peu la tête, quoi.
Oui, on peut donc trouver tout ce qu'on veut. Aussi, un exemple très intéressant. En novembre 2015, on a vu circuler un tweet qui annonçait attentat terroriste à Paris, 120 morts. 270 blessés, c'était donc l'époque de l'attentat contre le Bataclan. Hein. Mais ce qui est étonnant, c'est que le tweet était daté donc du 11 novembre, soit 2 jours avant les attentats.
Oui. Alors évidemment, on a dit, à juste titre, c'était, si je vous raconte ça comme ça, vous venez de le raconter, c'est surprenant. Un esprit bien constitué se dit, tiens, c'est une coïncidence extraordinaire.
Comment pouvait-il prédire l'attentat de vous revendre ?
Voilà. Alors il y a deux théories possibles, soit il avait des dons de précognition, c'était un voyant, ou alors il était au courant. Avant, et c'est évidemment cette deuxième théorie qui s'est diffusée sous la base de théorie du complot, d'autant que le compte Twitter qui avait émis ce tweet a été interdit par Twitter suite à l'affaire. Donc on s'est dit, ah, ils veulent cacher quelque chose, ils veulent effacer leurs traces. Sauf qu'en réalité, ce compte avait été interdit parce que c'était un compte robot. C'était un robot qui émettait des centaines de tweets par jour exactement sur le même mode. Sauf qu'une fois, c'était un attentat à Paris, une autre fois, c'était au Kenya, une autre fois, c'était une épidémie de Ebola, etc., etc. Toujours avec 120 morts et 240 blessés. Ce qui est bizarre pour une épidémie d'Ebola, mais enfin, c'était rédigé comme ça, évidemment, puisque c'était un robot qui le faisait. Bah, c'est la même question de Voltaire. Hein. Voilà. Les robots ne sauraient avoir le privilège de se tromper toujours, comme les astrologues. Et bien là, pour une fois, 2 jours avant les attentats, malheureusement, cette prédiction s'est réalisée. Et c'est vrai que si vous prenez cette prédiction en effaçant la taille de l'échantillon duquel il est issu, ben le cerveau, mécaniquement, comment il réagit, il se dit « ça peut probablement pas être une coïncidence, c'est probablement pas le hasard ». Donc il voit des intentionnalités là où il n'y en a pas. Et une des grandes luttes pour l'hygiène intellectuelle de nous tous, c'est justement de faire disparaître les intentionnalités quand il n'y en a pas. Parce que le monde est souvent complexe, il est fait de plein de facteurs, il n'est pas toujours fait de mauvaises intentions.
Voilà donc l'un des outils très importants pour se protéger de la crédulité avec le sociologue Gérald Bronner. Ne soyons pas naïfs, mais restons jeunes avec « Young and Naive » de Heather Wyden.
I love how you hate the way I always say that you'll learn someday. I love how you keep trying to hold on to me when I turn away. You're painting me pictures of Mrs. and Misters, and they're pictures I'd love to believe. And that's the beautiful thing about princes and queens, and you being so young and naive. You say you're a man and you swear that you can be the world to me. But I've seen the world and I can't be the girl that I think you need. You beg me to listen to see what I'm missing. You're talking all Adam and Eve, and I'm tempted to try, but the problem is I am no longer so young and naive. You look like a face.
Comment garder l'esprit critique et se protéger de la crédulité? Eh bien, il y a des journalistes qui peuvent nous aider. C'est ce que font nos collègues de France 24 dans l'émission Info Intox. Écoutons Ségolène Malter.
Sur le web, n'importe qui peut mettre des images au service d'un discours politique. Et parfois, l'internaute s'embarrasse peu de la vérité. Regardez ce tweet posté en pleine campagne américaine par un militant pro-Donald Trump. L'auteur parle d'un déferlement de réfugiés sur l'Europe. Et ces images de trains bondés viendraient le prouver. Pourtant, la vidéo a été filmée bien loin de l'Europe, au Bangladesh. Pas compliqué de la retrouver en tapant « train bondé » en anglais. Ce sont les premières images qui sortent sur Google. La vidéo originale est celle que vous voyez ici. On y découvre plusieurs autres plans édifiants. Ici, l'alphabet sur les trains et les pancartes n'est ni latin ni cyrillique, mais bengali. Ces images ont été prises à la gare de Dhaka au moment des départs en vacances pour les fêtes de l'Aïd. Attention aussi au vocabulaire orienté. Le terme d'armée musulmane pour désigner les supposés migrants était un indice de la logique propagandiste de l'internaute. Pour des raisons politiques, la question des migrants est une des plus manipulées en images. Or, aucune image de réfugiés ne sera plus informative que les chiffres des organismes reconnus en charge de leur accueil.
Gérald Brunner, les fake news sont parfois grossières et faciles à démasquer, pour peu qu'on s'en donne la peine.
Oui, mais le problème, c'est qu'on ne s'en donne pas souvent la peine. Vous savez, d'abord, il faut vérifier la source de l'information, ce qu'on ne fait pas toujours, surtout quand cette information, encore une fois, va dans le sens de nos attentes politiques, par exemple. Vous savez, il y a un article qui est très connu, qui est très drôle, qui dit 70% des internautes ne lisent que le titre de l'article. Et vous faites cette expérience, vous le partagez sur votre compte Facebook, par exemple. Et en fait, l'article lui-même est écrit dans un langage de type extraterrestre. Et vous voyez plein de gens qui likent l'article en disant « Oui, c'est vrai, c'est scandaleux, les gens ne lisent que le titre. » C'est une belle mise en abîme, si vous voulez, de cela. Parce que là, on a effectivement, ça va aussi dans le sens de notre attente intuitive, mais en même temps, on est soi-même dans le pot. Et puis, le fait est qu'en effet, il y a, par exemple, les fake news. Il y a un bel article dans Science que vous avez peut-être vu, qui a été publié il y a quelques semaines, c'est très récent, qui montre sur une base de données extrêmement robuste que les fake news se diffusent 6 fois plus que les informations ordinaires. Donc, elles ont une viralité.
Comment on peut l'expliquer?
Ce qui ne veut pas dire que les gens y croient.
Diffuse plus rapidement.
Mais parce que quand vous diffusez une information vous-même sur votre compte Facebook, qu'est-ce que vous espérez, grosso modo? C'est, excusez-moi l'expression, de capter du temps de cerveau disponible de la part de vos concitoyens. Vous avez un bénéfice à cela. En d'autres termes, quand vous manifestez, y compris moi quand j'écris un livre, ou vous quand vous êtes journaliste, que vous écrivez des articles, vous aimez bien et plus, n'est-ce pas? Et si vous les postez sur les réseaux sociaux, vous appréciez d'avoir un certain nombre de likes, de partages, etc. Cela est une sorte de bénéfice mental qui n'a pas encore été bien évalué, mais qui compte pour nous. Et manifestement, eh bien, on attire plus l'attention avec des informations, encore une fois, spectaculaires, scandaleuses.
Même si elles sont fausses.
Voilà,
si
par exemple, le type dont il est question, là, il a dû être beaucoup partagé par des supporters de Donald Trump ou de l'extrême droite américaine, parce qu'évidemment, ça nous met en colère, sincèrement en colère,
mais
parce qu'on a
pas,
envie d'y croire.
Et puis, tout n'est pas perdu, puisque justement, grâce aux outils que vous donnez, eh bien, on peut s'en protéger, justement, de ces fausses informations. Et puis, cela nous pousse à toujours rechercher la source de l'information, c'est quand même possible.
Ouais, tout n'est pas perdu, certainement pas. Moi, je suis plutôt un type optimiste, donc c'est pour ça que je continue à écrire ce genre de choses. C'est dans l'espoir que ça peut servir un peu, mais quand même, ne sous-estimons pas l'ampleur du risque. Parce que, par exemple, ce que vos collègues de France 24 font, c'est très bien. Il y a plein de journalistes qui le font, mais on sait qu'en même temps, ça ne sert pas à grand-chose, malheureusement. Ça a été relativement
testé. À cause du biais de confirmation, justement, puisque
les gens vont aller chercher
ce qui les rassure.
Et absolument. Il y a des sites, d'ailleurs, conspirationnistes qui font du décodage des décodeurs. C'est-à-dire, donc, on n'en finit plus, si vous voulez.
Oui.
Et donc, l'internaute, là-dedans, il est un peu perdu, quoi.
Mais concrètement, quels conseils donneriez-vous aux parents dont les enfants seraient tentés, justement, par les théories complotistes?
Bien, concrètement, d'abord, de leur faire lire notre bande dessinée.
Voilà, donc,
non, mais plus,
le plus... titre, crédulité et rumeur.
Plus sérieusement, effectivement, d'abord, de dialoguer avec eux. Ce qu'il ne faut jamais faire, que ce soit avec un jeune ou un autre, avec un esprit qui entend un peu de se radicaliser d'une certaine façon. C'est quoi la radicalisation, finalement? C'est l'enfermement mental. C'est-à-dire qu'on ne va plus être dans une forme de concurrence à d'autres types d'arguments. Donc, ce qui est très important, c'est de préserver une forme de concurrence. Et pour cela, d'abord, il ne faut pas moquer des croyances de l'autre. Surtout quand c'est un être proche, évidemment. Je comprends que c'est une tentation, parce qu'ils sont parfois un peu agaçants, les croyants aussi. Hein. Je veux dire, ils ont beaucoup de revendications, mais nous aussi, en tant que...
Oui, d'ailleurs, athées, dans vos livres, hein, vous ne moquez jamais hein, ces croyances. Hein, vous les abordez toujours avec, justement, respect. Hein,
et pour, oui, et pour la bonne raison que j'ai été croyant moi-même. Quand j'étais adolescent, j'ai cru comme le héros du roman, qui c'est pas autobiographique du tout, mais en l'occurrence, j'ai cru à toutes sortes de fadaises. Et j'ai mis du temps à comprendre. Et comment j'ai fait pour comprendre? Tout simplement en faisant une forme d'introspection rationaliste de mes propres croyances et un peu intransigeante.
Quand vous dites croyances, hein, donc théorie du complot, ce genre de choses, pas forcément de croyances religieuses, on ne parle
non,
pas
non,
forcément
d'ailleurs,
de
dans
ça.
Le, dans la BD, on ne parle pas du tout des croyances religieuses. Après tout, les questions métaphysiques sont des questions profondes et qui sans doute méritent d'être posées.
Comment c'est venu alors cette prise de conscience? Et tout d'un coup, vous avez lu un livre qui vous a, qui a été révélateur?
Non, en réalité, c'est que j'ai fait de la sociologie, tout simplement. Quand j'étais étudiant de sociologie dans mes premières années, j'étais encore relativement croyant. Et j'ai, dès ma troisième année de sociologie, décidé de travailler sur les croyances en tant que croyant. Et je crois que j'ai plutôt pas mal fait mon travail, ah oui. Puisque finalement, je me suis auto-observé. On est son premier laboratoire quand on fait un peu de science. Hein. On se pose d'abord des hypothèses dans son intimité. Et puis, je me suis vu fonctionner avec... j'ai vu une petite épicerie mentale. J'ai vu que je faisais un certain nombre de choses par intérêt mental, en espérant peut-être obtenir de l'univers, d'une entité supérieure, je ne sais quel intérêt, bénéfice. Et puis, ça ne m'a pas tellement plu. Et puis, peu à peu, couche par couche, parce que ça met du temps. Hein. Vous savez que quand on rentre dans une... J'étais pas dans une secte. Hein. Moi, j'étais même pas affilié à une religion. Je suis pas baptisé, etc. Mais je croyais à des trucs. Et ce qu'on sait par contre, c'est que les gens... J'ai observé par contre plus tard une secte de l'intérieur pendant un an en tant que sociologue. Et on sait que pour sortir d'une secte, il faut à peu près 6 à 8 ans à partir du moment où on a les premiers doutes.
Donc moi, ça a été plus rapide pour vous grâce à la sociologie.
Ouais, c'est ça. Quand on a un soutien, ça peut aller plus vite. Et c'est ce que j'essaye moi de produire, notamment pour les jeunes esprits ou pour mes contemporains. C'est des outils qui permettent peut-être d'accélérer cette déclaration d'indépendance mentale.
Et vous dites aussi alors que ces théories du complot, hein, disons, font office de béquilles cognitives. Elles rassurent, elles servent à quelque chose hein, finalement.
Ah, elles ont une utilité mentale. D'abord, c'est un vrai plaisir. Quand on est conspirationniste d'une certaine façon, on a l'impression de comprendre mieux le monde. C'est
et
un
d'être
effet
supérieur
dévoilement.
Aux autres.
On a l'impression d'être plus malin que les autres, de pas être des moutons, justement, et puisque les conspirationnistes traitent volontiers les autres de moutons. Alors, on est un peu supérieur, et puis le monde est beaucoup plus passionnant, quand même, parce que là, c'est tout à coup l'héroïsme à portée de main. C'est-à-dire qu'on peut lutter, on peut informer les gens, etc. On peut avoir une mission. Ce que je comprends parfaitement, sont là des passions
mais
humaines.
Mais il faut arriver à s'en libérer, justement, pour être parfaitement indépendant, justement.
Il faut beaucoup de courage intellectuel pour accepter ne serait-ce que par exemple la part du hasard dans le monde, n'est-ce pas? Comme disait Nietzsche, laissez venir à moi le hasard. Et ça, c'est une forme de courage intellectuel.
Eh bien, très bien, c'est une belle conclusion. Hein. C'était autour de la question, comment se protéger de la crédulité avec le sociologue Gérald Bronner, dont je rappelle le dernier ouvrage, une bande dessinée à l'attention des adolescents intitulé Crédulité et rumeurs avec le dessinateur Krasinski et c'est aux éditions du Long Bar. Cela sortira la semaine prochaine. Gérald Bronner, merci.
Autour de la question sur internet www.rfi.fr.
C'était Autour de la question avec Capoline Verlon-Raison à la réalisation et Caroline Fillette en coulisses. Merci de votre fidélité. Dans quelques instants, les infos sur la radio mondiale.
Contactez autour de la question @rfi.fr.